La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin dans ce lieu de culte. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent pour la première fois peut-être ce matin. Vous êtes ici chez vous, vous êtes accueillis ici dans cette maison et chaque fois que vous y reviendrez. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous allons vivre ce culte ensemble malgré la distance et nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes accompagnés ce matin musicalement par Sarah Kim et qui nous a fait la joie d'accueillir un ami qui s'appelle Fabrice Gasparini, c'est ça? Gasparini, voilà. Et qui va accompagner l'orgue à la flûte. Donc nous avons beaucoup de chance ce matin d'avoir ces deux musiciens. Merci à vous d'être avec nous. Je vous invite maintenant à nous réunir dans la prière par ce premier répond que vous trouvez au début des psautiers français, dans la petite liturgie qui y est glissée. Et nous nous levons. Voilà, pas d'inquiétude, Sarah doit être en train de régler, voilà. Nous louons Dieu avec le début du psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront, ainsi je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Je vous invite à chanter après ce psaume gourmand, le psaume 36, Ô Seigneur, ta fidélité, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne cette recommandation. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les gens de tous les autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, pour nous remettre devant le Seigneur, avec confiance et avec humour, je voudrais vous partager cette parabole que notre ami et mon confrère, Jacques Gratz, m'a redonnée gentiment. Ça me tracasse beaucoup, dit Dieu. Cette manie qu'ils ont de se regarder le nombril au lieu de regarder les autres. J'ai fait les nombrils sans trop y penser, dit Dieu, comme un tisserand qui arrive à la dernière maille et qui fait un nœud, comme ça pour que ça tienne, à un endroit qui ne paraît pas trop voyant. J'étais trop content d'avoir fini. L'important pour moi, c'était que ça tienne. Et d'habitude, ils tiennent bon mes nombrils, dit Dieu. Mais ce que je n'avais pas prévu, ce qui n'est pas loin d'être un mystère même pour moi, dit Dieu, c'est l'importance qu'ils accordent à ce dernier petit nœud, intime et bien caché. Oui, de toute ma création, dit Dieu, ce qui m'étonne le plus est que c'est ce que je n'avais pas prévu. C'est tout le temps qu'ils mettent. Dès que ça va un peu mal, à la moindre contrariété, tout le temps qu'ils mettent à se regarder le nombril, au lieu de regarder les autres, au lieu de voir les problèmes des autres. Vous comprenez, dit Dieu, j'hésite. Je me suis peut-être trompée. Mais si c'était à recommencer, si je pouvais faire un rappel général comme les grandes compagnies de voitures, si ce n'était pas trop de tout recommencer, dit Dieu, je leur placerais en plein milieu du front. Comme cela, au moins, ils seraient obligés de regarder le nombril des autres. Que cette parabole des nombrils nous inspire et nous invite à regarder notre prochain comme Dieu nous y invite. Nous chantons ensemble. Le Seigneur connaît nos errements, il sait à quel point nous sommes parfois centrés sur nos propres problèmes sans nous ouvrir à l'autre. Mais Jésus est venu nous redire la grâce de Dieu pour nous. Et je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, dit Jésus, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Nous confessons ensemble notre foi avec cette proposition ce matin. Je crois au chemin. Je crois que nous pouvons nous lever contre la contrainte, contre la souffrance et ressusciter dans la plénitude de la vie. Je crois que nous pouvons partager le pain et la diversité de nos rêves et que la terre, grâce à cela, se renouvelle dans une vie commune entre toutes et tous. Je crois que nous sommes guéris en nous confiant mutuellement nos douleurs, pleins de vigilance et de tendresse pour le désir des autres. Je crois que le ciel s'ouvre toujours à nouveau et que nous pouvons vivre de cette espérance. Je crois que l'alliance de Dieu avec tout ce qui vit est amour et grâce. Par elle, la vie peut être chuchotée, espérée, éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, j'ai choisi de lire un passage que nous avons étudié cette semaine en études bibliques. Et donc, quelques-uns, quelques-unes d'entre vous vont reconnaître ce texte, en tout cas le début, parce que c'est un texte très long qui court sur 3 chapitres et donc il vous en manque beaucoup. Il est temps d'aller relire Ézéchiel dans vos Bibles dès que vous rentrerez. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 40, les versets 1 à 7. « La 25e année de notre déportation, au commencement de l'année, le 10 du mois, 14 ans après la ruine de la ville, ce jour-là, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me conduisit là-bas. » C'est Ézéchiel qui parle. « Dans des visions divines, il me conduisit dans le pays d'Israël et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvaient au midi comme les bâtiments d'une ville. Il me conduisit là-bas, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect du bronze ou de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Et il se tenait près du porche. Cet homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à tout ce que je vais te faire voir, car tu as été conduit ici pour regarder. Explique à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. Voici qu'une muraille extérieure entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne à mesurer de 6 coudées, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur de la construction, une canne et sa hauteur, une canne. Il alla vers le porche dont la façade est à l'est et en monta les marches. Il mesura le seuil du porche, une canne en largeur, une canne en longueur, rien que pour le seuil. Chaque loge était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait 5 coudées entre les loges, le seuil du porche, près du vestibule du porche à l'intérieur, avait 1 canne. Voilà le début de cette histoire et de cette visite guidée dans ce temple imaginaire. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 170, les strophes 1 et 2 dans le louange et prière. Je vous invite à la prière. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions tes prophètes pour ce monde. Amen. La question de la fidélité est constamment présente dans la Bible et elle est constamment présente dans le fait religieux en général. Mais quand on parle de fidélité religieuse, on associe souvent la foi à une confiance aveugle de l'être humain en Dieu. N'est-ce pas la signification de fide, après tout, foi, qui donne le mot fidélité ? Toutes les religions, dans leur acception la plus autoritaire, ont brandi la fidélité à un Dieu, à une doctrine, à une tradition, contre celles et ceux qu'elles appelaient les infidèles, un peu rapidement, un peu facilement, et toujours pour trouver un moyen de prendre le pouvoir. Aujourd'hui encore, la fidélité à une religion pose très souvent la question de fidélité de façon binaire. Comme si le croyant basculait du côté de l'infidélité chaque fois qu'il mettait en question une affirmation théologique, un rite ou une partie des textes dits fondateurs. Mais la fidélité à Dieu ne se pose ainsi que lorsque la religion est, selon l'appellation du théologien Auguste Sabatier, une religion d'autorité. Si la religion devient symbolique, si elle laisse place à un imaginaire propre à chaque croyant, si elle n'impose plus une doctrine mais laisse le croyant dans une relation fructueuse à la transcendance, au divin, ou à Dieu, selon la façon dont il choisit de l'appeler, alors les choses changent. Et les dogmes deviennent des vérités seulement si le croyant y trouve une part de son expérience spirituelle. Ils ne seront dogmes que pour lui. Fort bien, me direz-vous, mais pourquoi choisir de lire aujourd'hui un tel extrait du livre d'Ézéchiel pour parler de fidélité ? Sans vouloir faire de jeu de mots avec le texte, la marche semble un peu haute. C'est un passage étrange, en effet, qui ressemble plus à une visite guidée qu'à une illustration de la notion de fidélité. Cette description, accompagnée des cotes de mesure architecturale d'un temple idéal, court sur 3 chapitres, comme je vous le disais tout à l'heure, du chapitre 40 au 43, sans se lasser des détails qui se trouvent ainsi accumulés et du parcours très précis que l'on fait de salle en salle. Pourquoi décrire de cette façon ce temple de Jérusalem qu'Ézéchiel semble voir mentalement ? À lire ces pages, on aurait au mieux envie de tracer le plan de ce temple imaginaire une bonne fois pour toutes. Au pire, envie de contourner le passage et d'aller directement à la fin pour voir vraiment ce qu'il en est. Oui, mais voilà, même si des chercheurs en sciences bibliques ont refait le plan supposé de ce temple, cela n'a aucune signification en soi pour le lecteur, aucune autre que celle d'une description fidèle au temple de Jérusalem, et on ne va pas très loin avec ça. Il ne s'agit donc pas du plan. Il ne s'agit donc pas de cela pour dire ce qui est important dans ce texte. Si on s'arrête au plan et qu'on regarde la norme d'un plan comme il doit être construit, un temple comme il doit être fait, alors on retombe dans cette fameuse norme avec toutes ces mesures comprises comme des choses qui ne changeront jamais. Sauf si l'on considère ce passage en changeant de point de vue, comme l'auteur du texte semble nous y inviter. En effet, il ne s'agit pas tant d'une description que d'une visite guidée, comme je vous le disais, une déambulation dans un édifice sacré où chaque mesure rappelle la présence humaine. Les chapitres 40 à 43 nous invitent à l'analyse d'une situation, dans le style d'une analysis situs, comme Leibniz a appelé au XVIIe siècle une géométrie dans laquelle, dit-il, il n'y avait rien de plus important que la considération des lieux. Une analyse des points, une analyse des lieux selon les points de topographie. Quand bien même on noterait toutes les mesures que l'homme de bronze, qui nous est décrit dans cette vision, effectue sous les yeux d'Ézéchiel, on ne pourrait se repérer dans ce dédale de parvis, de porches, de loges et de salles qui se succèdent et dont on ne peut retenir la situation. Alors que dit Ézéchiel à ses lecteurs et que nous dit-il à nous aujourd'hui ? La 25e année de notre déportation au commencement de l'année, le 10 du mois, 14 ans après la ruine de la ville, ce jour-là, la main de l'Éternel fut sur moi et il me conduisit là-bas. C'est un exilé qui est ainsi mis en situation dans ce temple imaginaire. Un homme qui, s'il était resté à Jérusalem, aurait sans doute pris la suite de son père et serait devenu prêtre. Ézéchiel est fils de prêtre. Mais la guerre est passée par là. Son père et lui ont été emmenés en exil forcé. Ils sont à Babylone avec toutes les élites du pays. Il ne sera peut-être jamais prêtre, puisqu'il est exilé dans un lieu où sa propre religion ne peut pas être conduite comme elle l'était à Jérusalem. Il ne rentrera probablement jamais là où est son sanctuaire. Alors pourquoi lui montrer ainsi un temple à lui qui n'en a plus ? C'est tout l'enjeu de cette visite. Refaire le trajet d'un prêtre qui sert l'Éternel, marcher et aller des murailles les plus extérieures vers les salles les plus sacrées, et refaire, comme dans une initiation imaginaire, le chemin de la fidélité des prêtres de la tribu de Lévi. Mettre ses pas dans ceux de cet homme si étrange qui l'accompagne et qui le guide et qui, en même temps qu'il le guide, lui montre les mesures. Il tient à la main un cordeau d'arpenteur et une canne à mesurer. Sa canne mesure une coudée en hébreu. La coudée se dit avec la même racine que l'esclave. C'est un terme de travail, de peine. Mais la coudée ici employée est la coudée royale, la coudée sacrée, celle qui est majorée d'un palme, la largeur d'une main. La coudée, c'est la mesure de l'avant-bras, le palme, c'est la mesure de la main. L'arpenteur de bronze, ou encore l'homme d'airain, est décrit comme un être immuable, taillé dans la matière des colonnes du temple, celle qui ne se brise pas, ou encore la matière de la mer d'airain, cette cuve d'eau lustrale qui permet les ablutions rituelles de la purification à l'entrée du temple. C'est donc un homme dont on dit que la matière est pure et éternelle qui conduit le prophète dans sa visite. Il lui montre, pour que le prophète montre à son tour à ce peuple exilé qui peine à trouver ses repères dans cet exil forcé. Comment être fidèle quand on est déraciné, loin de son pays, loin de ses rites et de ses coutumes, loin des racines de son histoire? Cette expérience humaine est celle de nombre de personnes qui, de par le monde, ont dû quitter leur pays sans l'avoir vraiment choisi. C'est une division profonde que de ne pas pouvoir continuer à vivre avec ceux qui sont restés. Car n'oublions pas que seules les élites d'Israël étaient déportées et que beaucoup étaient encore là-bas et que le peuple était donc divisé. La question de la fidélité ici n'a rien à voir avec le plan homologué du temple, mais elle se trouve dans la déambulation même de cet homme déraciné qui adopte tour à tour chaque point de vue sur les parties du temple et leur usage. Il refait le chemin que son père avant lui sans doute faisait à Jérusalem, jusqu'à l'autel des sacrifices, jusqu'à ce moment où la gloire de l'Éternel revient par la porte de l'Est et emplit la maison, comme c'est raconté au chapitre 43. Cette maison qui est à la fois ville de Jérusalem derrière ses murailles et temple derrière ses hauts murs. Sur la montagne où il se voit projeté, Ézéchiel, empêché d'être prêtre, doit devenir prophète. des observances conformes à la règle, il doit devenir messager d'un avenir, d'une promesse, garant de la fidélité de Dieu envers son peuple pourtant accablé. Il doit laisser le rite, le comprendre, mais le transformer et en faire une fidélité intérieure, sans temple, sans avoir le lieu qui convient pour rendre grâce à Dieu. Dans cette visite du haut lieu, les quantités et les mesures ne valent que si l'harmonie du tout est intégrée par le marcheur. Ézéchiel devient la mesure de son temple intérieur, comme l'homme d'airain est la mesure de sa fidélité. Porteur de mémoire et inventeur d'avenir, Ézéchiel, l'exilé, nous pousse, nous aussi, à devenir prophètes dans ce monde, comme si nous aussi nous avions perdu le lieu où se trouve notre Dieu, comme si aussi nous étions dans ce monde avec une difficulté à retrouver nos marques pour que notre foi abonde. Nous vivons dans une société sécularisée et en soi ce n'est peut-être pas si grave. Beaucoup s'en inquiètent, mais cela nous a donné aussi les plus belles libertés. Il s'agit d'abandonner les observances creuses des religions d'autorité et d'imaginer autre chose ensemble. Car ces observances-là, quand elles ne sont qu'observances, ne parlent plus à grand monde. Mais si aucune pensée symbolique ne nous aide à déchiffrer le monde, alors nous risquons de nous égarer dans une immédiateté violente. Si tout est séculier, s'il n'y a plus de symbolique, alors nous butons sur le réel, sans avoir cette médiation du symbolique. Notre actualité est pleine de cette violence qui nous met en demeure d'être binaire et de choisir d'être pour ou contre, sans inventer ensemble des horizons nouveaux, des conciliations nouvelles, où la conscience et la raison peuvent nous conduire. Pour ou contre l'avortement, pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre l'écologie, pour ou contre l'immigration, comme si les problèmes se posaient ainsi. Nous savons bien, si nous sommes fidèles à nous-mêmes, que la vie humaine n'est jamais si simple, que ces alternatives caricaturales, qui sont des pièges pour diviser et s'insinuer dans la fracture afin d'imposer une nouvelle domination. Ces alternatives qui ne cherchent en rien à grandir nos vies, mais qui veulent seulement diviser les uns et les autres pour régner, ne nous apportent rien. En tout cas, ce n'est pas avec cela qu'on construit une société pacifiée, une société qui dialogue. S'il y a bien un principe de non-contradiction qui peut nous aider à nous repérer, si tout ne se vaut pas en effet, si on peut dire non à certaines choses et oui à d'autres dans nos engagements, ce n'est sans doute pas de cette façon-là. Ne pas se renier soi-même, c'est souvent être capable d'adopter le point de vue de l'autre et se demander sincèrement si ce qui semble évident pour moi l'est aussi dans la situation de mon prochain. Toujours chercher à regarder de l'autre côté en se retournant nous-mêmes. C'est le terme en grec pour la conversion, la métanoïa. Se retourner sur soi, regarder d'un autre point de vue. C'est ce que fait Ézéchiel dans ce temple quand il déambule. Dans la vision d'Ézéchiel, il ne s'agit pas de montrer un temple et de dire à Ézéchiel « Voilà le vrai temple, es-tu fidèle ou non ?» Il s'agit au contraire de faire l'effort par l'imagination de mesurer chaque recoin en adoptant chaque point de vue dans l'architecture du lieu pour que celui qui aurait pu se contenter de dire pur ou impur, fidèle ou infidèle, se transforme et se demande ce qui est réellement fidèle ou infidèle dans sa situation et dans la situation de tous les exilés qui sont avec lui. Ce qui est pur ou impur dans son temple intérieur à lui-même, ce qui est pur ou impur en lui-même. Dans la vision d'Ézéchiel, il n'y a pas d'extériorité. Tout se passe à l'intérieur des murailles de la ville qu'il appelle cette maison. Une maison qui est ville, maison et temple à la fois. C'est son monde. Comme si Dieu habitait là où est notre ville et notre maison. Comme si l'on ne pouvait jamais dissocier le religieux ou le spirituel du profane, de la société qu'on habite et du temple dans lequel on va prier. Du quotidien, on ne peut séparer le divin. Du quotidien, qui est notre lot à tous humains, on ne peut dissocier l'éternité. La fidélité est une question de relation. Il n'y a pas de substance à la fidélité. Elle n'existe pas en soi. Il faut la construire avec les autres, avec ce à quoi on a envie d'être fidèle. Seul, le problème ne se pose jamais. La question est de savoir en quoi je veux déposer ma foi. Où sera ma maison ? À quelle référence je me repère pour habiter ma demeure intérieure, qui est aussi ma ville, qui est aussi mon monde. Et ça, ce n'est pas possible si je reste à l'extérieur de la muraille et que j'admire la grandeur de l'édifice sans m'y engager. Ézéchiel aurait pu ne pas rentrer. Quelle alliance structure l'architecture de nos vies ? Comment nous situons-nous dans notre foi ? Serons-nous extérieurs, spectateurs et de passage dans ce monde, sans nous y engager vraiment, par la foi ? Sommes-nous perdus dans une foi dont les références ne font plus sens aujourd'hui pour notre vie ? Alors comment les retrouver, ces points de repère, ces mesures qui sont si importantes pour vivre ? Sommes-nous engagés comme Ézéchiel qui accepte de se projeter dans l'analyse des points de vue de ses contemporains, avec l'assurance que la mesure divine est celle qui le conduit à être fidèle à son humanité ? Il nous faut sortir d'une logique quantitative qui est trop souvent proposée dans notre société, où le plus lourd l'emporte. Il nous faut entrer dans une logique relationnelle où la qualité de la rencontre nous guide pour construire notre sincérité. La conscience n'est pas un référendum ou un vote du pour ou du contre simpliste, mais une discussion qui mène sur des chemins où se découvre la mesure de notre humanité à mesure que nous cheminons ensemble. Nous sommes le temple du Seigneur, un temple dont nous devons imaginer nous-mêmes avec ceux qui nous entourent les contours et dont les mesures sont celles de la fidélité, celles que donne cet homme d'airain, pur et éternel. Le culte rendu à Dieu dans ce lieu n'a de sens que si la vie que nous vivons en est changée. Je vous concède que l'homme des reins est difficile à suivre, mais il mesure avec notre coudée humaine. Il y ajoute le palme divin qui augmente notre mesure pour nous édifier. Il nous propose un peu plus que nous-mêmes, de nous excéder nous-mêmes grâce à Dieu, à l'aune de nos relations humaines, à l'aune de notre amour du prochain. Alors soyons fidèles à cet homme au cordeau qui cherche sans cesse la mesure qui convient à chaque recoin de nos vies comme un arpenteur de nos âmes. Il y a tant de belles réalisations humaines, il y a tant de talents et de coopérations à mettre au service du bien dans notre société. Ne nous laissons pas accabler par le spectacle inquiétant de ceux qui prônent la démesure des possessions et des pouvoirs, et qui s'appuient sur des théologies de l'abondance et de la prospérité pour justifier leur soif de domination. En ce moment, nous n'entendons que cela. Être toujours plus grand, plus puissant, plus dominateur. Laissons ces tas d'or qui n'enrichissent que ceux qui les possèdent sans les combler jamais. Et cette logique de la possession sans mesure où l'homme se croit tout puissant sans se trouver jamais. Ce n'est pas notre modèle de société. Ça ne peut pas l'être au regard de l'enseignement d'un Jésus de Nazareth qui était celui qui écoutait tous ceux dont on ne voulait pas. Construisons ensemble, tels des architectes fidèles, même au plus dur de la crise, la société d'espérance et de partage à laquelle tant d'hommes, de femmes et d'enfants aspirent. Nous sommes ensemble le temple du Seigneur. L'église d'un homme qui nous a dit un jour « Faites ceci en mémoire de moi » et qui a partagé son pain. Ne désespérez jamais du monde. Le monde a besoin de notre coudée et du palme de Dieu en plus. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 84, Dans ta maison, je suis heureux, les strophes 1, 2, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir et je vais demander à Stéphane de nous rejoindre, qui est au conseil presbytéral avec nous et qui va partager avec nous des annonces.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci de votre belle fidélité. Merci Béatrice pour ta jolie prédication. Merci aussi d'avoir bravé ce mauvais temps qui commence un petit peu à ressembler à une punition divine. Au programme de cette semaine, nous avons le mardi 11 février, les rencontres théophiles qui sont animées par Béatrice, accompagnées des philosophes France Farago et Jean-Pierre Clairaut. Le thème de mardi sera la guerre. Je ne sais pas si Béatrice, tu veux rajouter un point sur ce vaste sujet.
Alors c'est France qui va nous conduire, France Farago qui est ici. Bonjour France et merci à toi d'être avec nous. Nous allons donc partager cette soirée entre un moment d'introduction biblique sur les questions de la guerre et du religieux, ce qui est toujours un problème très épineux, et ensuite la parole sera à France qui nous conduira dans les philosophies, enfin avec des philosophes qui ont parlé de cette question de la guerre, et donc un programme très varié et très attaché au contemporain, et donc quelque chose de très très intéressant. Venez, et venez nombreux, et vous n'avez pas besoin de vous inscrire, je vous le redis, puisque je reçois des messages qui me demandent « Est-ce que j'ai le droit de venir sans être inscrit ?» Oui, voilà. Alors, on accueille à 19h, je crois, quelque chose. Oui, c'est ça, 19h. Et puis, ensuite, on commence à 19h30, et puis on continue la soirée vers 21h30. Vous devriez être libre. On déborde toujours un peu, mais c'est tellement intéressant qu'on a du mal à s'arrêter. Mais vous pouvez partir quand vous voulez. Voilà.
Merci, Patrice. Mercredi 12 février, le groupe Jeune Oratoire se retrouvera ici au Temple à partir de 19h pour chanter, puis débattre à partir de 19h30 autour du thème « Les noms de Dieu ». À partir de 20h30, des agapes végétariennes auront lieu à la maison presbytérale, donc aux 4 rues de l'Oratoire. Agapes qui auront été préparées avec amour par Béatrice, Victoire.
Les jeunes se mobilisent pour faire un joli repas, et vous pouvez rejoindre le groupe sur WhatsApp si vous êtes intéressé par ce groupe. Le groupe sur WhatsApp qui s'appelle Jeune Oratoire, n'hésitez pas à rejoindre les autres jeunes. Alors on est jeune longtemps, hein, donc si vous avez entre 30 et 35 ans, c'est bon. Hein.
Sur le site, il y a noté entre 18 et 35 ans, donc on peut... voilà. S'agissant des cours de grec biblique, je vous propose juste de vous reporter à notre site web. Vous y trouverez toutes les informations pratiques. Avant de passer à l'offrande, nous voulions tous, au titre du Conseil presbytéral, vous remercier à nouveau, vous adresser un immense merci, donc un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont généreusement soutenus en 2024. Nous souhaitons aussi profiter aussi et vous rappeler que nous avons toujours besoin de bras, nous avons toujours besoin de cerveau, sachant que ça ne s'oppose pas évidemment, et surtout beaucoup besoin d'enthousiasme pour faire vivre notre belle paroisse. Donc en un mot, rejoignez notre association culturelle Apérol, et pour en devenir membre, vous verrez, c'est extrêmement simple, vous envoyez votre candidature à l'adresse accueil@oratoire-du-louvre, et puis la procédure suivra et on sera ravis de vous accueillir parmi nous. Voilà, j'en ai fini avec les annonces, donc voici venu le temps de l'offrande joyeuse et généreuse. Merci à tous et passez un très très beau dimanche. Merci.
Merci beaucoup à nos musiciens ce matin et merci pour ce moment de grâce. On aurait voulu que l'offrande dure toujours avec cette musique. Alors, je vais demander aux jeunes du groupe de jeunes de se lever simplement pour que d'autres jeunes qui sont ici peut-être et qui ont envie de les rejoindre les identifient et puissent les voir. Voilà, levez-vous, levez-vous. Voilà, soyez pas timides. Vous voyez, les jeunes du groupe de jeunes de l'oratoire sont au culte le dimanche matin parce qu'ils mettent leur réveil. Merci beaucoup. Voilà. Je vous invite à vous asseoir. Et donc, vous voyez que vous ne serez pas seuls à cette belle soirée sur les noms de Dieu. Et les thèmes sont choisis par les jeunes. Et donc, ils décident ensemble ce qu'ils ont envie de discuter ensemble. Je vous invite à la prière. Éternel, nous traversons des temps troubles où la discussion et la cohésion n'est pas à l'ordre du jour. Où quelques personnages bien étranges vocifèrent et menacent d'annexer des terres qui ne sont pas à eux. D'acheter des territoires entiers, comme si tout pouvait s'acheter, de transformer des endroits de chaos, de misère, en plages. Éternel, garde-nous de cette violence incroyable. Et permet que nous puissions faire notre chemin dans la mesure que tu nous donnes, avec humanité, avec responsabilité, avec conscience. Apprends-nous à ne pas être apeurés ni fascinés par ces démonstrations de force qui malheureusement entraîne tant de personnes de notre monde dans leur sillage. Nous sommes ton peuple, un peuple d'hommes, de femmes et d'enfants qui marchent selon une parole créatrice, une parole qui s'échange, une parole qui fait notre humanité. Apprends-nous à respecter cette parole et à mesurer nos mots, nos prises de position, à mesurer chaque fois le point de vue de l'autre en face de nous, à côté de nous. Permets que nous soyons dans cette discussion constante qui nous permettra de ne pas perdre pied si la violence devenait insupportable. Nous sommes dans des temps troubles où nous ne savons plus très bien comment gouverner nos propres vies. Éternel, permets que nous puissions compter sur toi. Dans la prière, en nous remettant auprès de toi et en te laissant inspirer en nous cette paix si nécessaire pour décider avec clairvoyance de ce que nous avons à faire. Éternel, ouvre nos yeux sur la beauté de ce monde, sur toutes ces initiatives de paix, sur toutes ces initiatives de construction, de dialogue, de coopération, et permet que nous puissions voir avant tout ces efforts pour la vie, et que nous puissions ainsi vivre fidèlement à ta parole. Éternel, nous te disons cette prière que Jésus nous a apprise en nous disant de nous garder de dire trop de paroles quand nous prions, mais seulement les paroles nécessaires. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes le temple du Seigneur. Avec nous, c'est la parole de Dieu qui va dans le monde. Alors allez l'annoncer, cette parole, et renouveler cette espérance dont nos contemporains ont tellement besoin. Détournez le regard des méchants et prenez soin de regarder toutes celles et ceux qui font des efforts de bonté et de justice dans notre monde. Car c'est avec eux que nous construirons demain, comme l'Évangile nous le demande. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce nous bénit dans sa grâce. Amen.